Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous avons adoré, nous avons prié, nous avons chanté. Maintenant, nous allons passer quelques moments autour de la parole de Dieu. Père céleste, nous avons cet immense privilège ce soir de pouvoir nous rassembler autour de ta parole, cette parole qui est toute puissante, qui accomplit exactement ce dont pourquoi elle a été prononcée. C'est pourquoi nous marchons dans cette arène ici, sur terre, en ayant cette confiance que nous avons la meilleure des protections, comme Adam l'avait certainement dans le jardin d'Éden. Aussi, nous ne voulons pas nous en écarter pour que nous puissions toujours bénéficier, que nous l'avons chanté, que nous puissions toujours bénéficier de ta présence, que tu es toujours là. Et nous le croyons de tout notre cœur. Tu es avec nous ici présent, tu es avec nous dans nos maisons, tu es avec nous dans la rue, tu es avec nous au travail. Et les combats peuvent se déclarer à n'importe quel endroit. Cela peut être au travail, cela peut être dans la maison, cela peut être ici. Mais présentement, nous avons ici une requête de ton fils qui a un combat là-bas au travail. Et sur terre, il n'est pas certainement un peu comme Gédéon, il n'est pas plus grand que celui qui l'affronte. Mais le Dieu que lui sert est plus grand que son employeur. Aussi, je te prie de poser ton regard favorablement sur le cas de ton fils, afin que tu lui donnes gain de cause, que tu lui donnes cette victoire, et cela lui donnera encore un de tes bienfaits qu'il comptera dans les temps difficiles. Que tu lui pardonnes ses péchés s'il en a commis. Ne tiens pas compte de cela, ne tiens pas compte de notre non plus, pendant que nous nous associons à lui. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner. Nous te demandons également de bien vouloir nous inspirer ta parole ce soir, pour ce soir, que nous puissions nous exhorter quelque peu. Parfois, dans la carrière, nous marchons, nous piétinons des cailloux. Si ça blesse un peu, tu as de quoi guérir. Aussi, nous ne voulons pas marcher dans la complainte, mais nous voulons marcher en vainqueur à tout moment, car la victoire, tu l'as acquise à Golgotha. Inspire-nous ta parole ce soir, que vraiment nous puissions en tirer avantage, et nous te prions pour tous les bien-aimés qui ne sont pas là, que tu les aides également. Te prions pour ceux qui sont en voyage, pour ceux qui sont au travail encore ou qui habitent au loin et qui ne peuvent pas être présents pendant la semaine. Que tu bénisses chacun, que tu visites chacun selon ses besoins et que lorsque nous nous rencontrerons encore ensemble, que cela soit comme Marie et Élisabeth ayant vécu une merveilleuse expérience avec toi. Nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous lirons ce soir dans Jérémie 8. 21 à 22. Le prophète dit ceci: je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que là, nous intitulerons le sujet « Juste pourquoi ?» Comme le frère avait intitulé ainsi, il y avait plusieurs messages qu'il a prêché « Pourquoi ?» Un prophète du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, Jérémie, ce n'est pas n'importe quel prophète. Il a vu la grandeur de Dieu. Il a vécu, il a expérimenté la puissance divine. Et il dit qu'il est brisé par la douleur de la fille de son peuple. C'est qu'il a apporté la parole de Dieu à son peuple. Il a apporté le « ainsi dit le Seigneur ». Ce que Dieu lui a dit au sujet de son peuple. C'est que Dieu a mis à disposition de son peuple. Mais il constate que la fille de son peuple est dans la douleur. Verset 21. Non seulement ça, ayant un tel Dieu, ça nous concerne également, ayant un tel Dieu, ce peuple ne pouvait être que dans la joie. Lui-même, Jérémie, ne pouvait être que dans la joie, sachant ce que Dieu a donné à son peuple. Je crois que c'est dans Jérémie 29. Retenez encore Jérémie 8. Dans Jérémie 29, il dit ceci, c'est Jérémie qui a apporté cette parole, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le Dieu qui ne ment pas. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Ayant reçu de telles paroles, ayant apporté une telle parole, il pouvait s'attendre que ce peuple, que lui-même d'ailleurs, soit dans la joie. Mais il est triste de voir que la fille de son peuple est dans la douleur. Et lui, il en est épouvanté. Il sait, Jérémie, il sait par Ésaïe que la douleur de la fille de son peuple a été résolue. Il sait ça. Comme nous aujourd'hui, nous savons que notre douleur, la question de notre douleur a été résolue. Dans Ésaïe 53, Jérémie ne pouvait pas ignorer ça. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est qui ? Il s'agit de qui ? Il s'agit du bras de l'Éternel. semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il est dans la tristesse, en fait. Pourquoi? Parce que une bonne nouvelle est annoncée. Bonne nouvelle annoncée, comme quoi, au pays que Dieu leur avait donné, au travers de Josué, le pays de Galaad, c'était une région boisée et montagneuse. C'était une région pleine de bois, d'arbres de résineux, comme on appelle, c'est-à-dire des arbres à résine. Et de cette résine, on en faisait un baume. Le baume a des vertus médicinales. C'est-à-dire que ça peut intervenir pour nous soulager dans nos peines, dans nos maladies. Le baume a des vertus cicatrisantes au cas où vous avez une plaie. Vous y mettez du baume, le baume va agir. Et c'est un arbre très fréquent, surtout en Galaade. Et Galaade, c'est une portion de terre que Dieu a donnée. Il y avait les Rubénites qui y habitaient, je crois. Josué, chapitre 12. Il y a aussi dans Deutéronome 3, il parle de Galaade. Josué 12, verset 1er. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. On passe au verset 4. Og, roi de Bazan, seul reste de Réphaïm, des géants. Constantin, comme ton employeur. C'est un géant. Un géant parce qu'il a des hommes sous ses ordres, il les paye, n'est-ce pas? Parfois, ils ont tendance à en faire ce qu'ils veulent. Og, roi de Bazan, seul reste des Réphaïm qui habitaient à Ashtaroth et à Edrei. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salka, sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Guescuriens et des Makatiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sion, roi de Hesbon. Donc, à côté, il y avait aussi le roi de Hesbon. Et Galaad était une région riche, on voit bien, occupée par des rois redoutables. Mais malgré tout, Dieu leur a donné ce pays. Et Jérémie devait savoir que Dieu leur avait donné ce pays. C'est pourquoi il pose la question. N'y a-t-il pas de baume en Galaad? Ce n'est pas possible. Cette région boisée, avec plein de résineux, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de baume. Et ça, il leur a annoncé cela. Il leur a annoncé la parole. Ils savent ce qui leur appartient. Tout comme vous, vous savez ce qui est à vous. Et ce qui est à vous, vous avez le droit de demander. Et Jérémie est dans la tristesse parce qu'il a annoncé cette bonne nouvelle aux gens. La bonne nouvelle, l'évangile, qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu, elle, normalement, elle nous donne la joie. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Si ça s'appelle une bonne nouvelle, c'est parce que c'est une bonne nouvelle. Quand vous recevez une bonne nouvelle, ça vous rend joyeux. Vous n'avez jamais reçu une bonne nouvelle et puis vous vous êtes mis à pleurer de tristesse. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, quand il est né, c'était une bonne nouvelle pour les bergers. Et l'ange qui les a visités leur a dit ceci dans Luc 1er. Dans Luc 2, pardon. Dans Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Maintenant que l'Éternel est là, c'est vrai que sa présence, ça peut susciter de la frayeur. Mais là, c'est surtout de la frayeur pour les incrédules. Mais pour les siens, pour les gens simples, Dieu leur dit tout de suite par l'ange, mais l'ange leur dit, ne craignez point. C'est ce que Jésus disait souvent à ses disciples. N'ayez pas peur. Lorsque la tempête grondait, lorsque les vents soufflaient, lorsque les vents étaient contraires, parfois ils avaient l'impression de voir comme un fantôme, mais il les rassurait toujours. Il est le même aujourd'hui. Il rassure toujours les siens. N'ayez pas peur, ne craignez point. Et pourquoi? Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aussi, nous avons cette nouvelle-là ce soir. Cette bonne nouvelle ce soir, que le bras de l'Éternel, n'est-ce pas, est venu parmi nous. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Il a été meurtri pour nous. Et nous avons cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ça, c'était le jour de sa naissance. Aujourd'hui, nous vivons le jour de sa résurrection, où Paul nous dit, j'ai prêché Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. Il est venu dans la puissance de la résurrection. C'est une bonne nouvelle. Quand la nouvelle est arrivée à Cléopas et à son compagnon, ils n'ont pas bien assimilé cela, mais quand ils ont constaté que réellement il est ressuscité, ça a été pour eux un bon constat, un sujet de joie. Et ils sont rentrés, n'est-ce pas, tout joyeux. Donc c'est une bonne nouvelle que Jésus est venu parmi nous. La promesse de la venue de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Nous ne devrions pas être inquiets. Jésus lui-même le dit. Il le dit à Cléopas et à l'autre. Il dit, mais vous n'avez pas de raison d'être triste. Lorsqu'on est triste, c'est parce qu'on est lent à croire ce que les prophètes ont dit. Oui. Dans Luc 24, il leur dit, « Mais de quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci, Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Si Jésus n'était pas venu, nous serions démunis dans ce monde. Nous serions sans aide dans ce monde. Surtout que notre ennemi, notre adversaire, le diable, a toujours tendance de faire tourner les choses en notre défaveur. De telle manière que nous soyons toujours tristes. Vous savez, les oiseaux, beaucoup de choses peuvent leur arriver, mais ça n'entame pas leur joie. Si nous marchons et que nous sommes tristes, c'est que, quelque part, nous ne le voyons pas. Il est bon de marcher en le voyant. Frère Branham a prêché sur « Tournez vos regards vers Jésus-Christ ». Ne tournez pas vos regards vers vos problèmes. Ne tournez pas vos regards vers vos douleurs. Ne tournez pas vos regards vers vos chagrins. Tournez vos regards vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a la puissance de remettre toutes choses en ordre. Nous avons lu dimanche passé concernant Lazare. Marthe dit, « Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. » Jésus-Christ nous le dit. Lorsque ces choses nous arrivent, Jésus-Christ nous donne les yeux pour pouvoir voir la résurrection. C'est vrai, le corps peut pleurer, mais notre affliction n'est pas la même parce que nous avons une espérance. Dans Jean 16, il dit ceci, c'est réconfortant. Parce que quand il a dit aux disciples qu'il allait s'en aller, les disciples ont été attristés. Mais il leur dit ceci. Verset 16, Jean 16, 16. « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. » Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qui nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus ?» Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Pardon. Nous ne savons de quoi il parle. Verset 19. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez, n'est-ce pas? Vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Verset 22, vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Nous avons ce privilège que de savoir qu'il vient bientôt, comme nous l'avons vu. Nous avons ce privilège qu'il a dit, nous avons lu cela dans Jérémie 29, où il dit à Israël, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous prierez de tout votre cœur, je vous exaucerai. » C'est une promesse. Cela ne doit pas nous faire marcher courbés par les fardeaux. Au contraire, ces fardeaux deviennent légers. Pourquoi ? Parce que nous avons cette personne, n'est-ce pas ? Nous avons ce Créateur qui tient tout dans ses mains. L'employeur du frère, ce n'est qu'un instrument entre ses mains. Dieu peut lui faire changer d'avis cette nuit même. Dieu peut lui apparaître en songe. Dieu peut lui parler d'une manière ou d'une autre. Vous savez, Nebuchadnezzar, Il a vu un songe qui l'a effrayé. Et c'était le Dieu de Daniel. Et il essayait d'écraser Daniel et les autres, les enfants hébreux. Mais Dieu a montré qu'il était le vrai Dieu. Son employeur peut aussi constater que son Dieu est le vrai Dieu. S'il est sincère, un peu comme Nebuchadnezzar, il le reconnaîtra. Mais s'il n'est pas sincère, mais il le gardera quand même en lui. Et c'est sûr, le frère lui fera peur. C'est lui qui aura peur. Souvent, il se méfie des chrétiens. Lorsqu'il voit que vous avez quelque chose que eux ne s'expliquent pas. Oui, vous êtes des privilégiés. Il y a une lumière autour de vous que vous ne voyez peut-être pas, mais que eux finissent par voir. Pour autant, que vous restiez toujours avec lui. Pour autant, que vous soyez, que vous demeuriez en lui. Il dit, pour ce qui est des tribulations, soyez en paix. Qu'importe ce qu'on vous fait, soyez en paix. Il dit au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Parce que c'est vrai, le monde s'agitera autour de vous. Il y aura beaucoup d'agitation autour de vous. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et nous avons cette conviction-là qu'il a vaincu le monde. Amen. Alors, la question que le prophète se pose, c'est pourquoi est-ce que mon peuple ne vit-il pas dans la joie? Pourquoi est-ce que la fille de mon peuple n'est-elle pas dans la joie? La fille de mon peuple ayant reçu ces merveilleuses promesses par le Dieu qui ne ment pas devrait être dans la joie. Nous devrions être les gens les plus joyeux de Bruxelles ce soir. Nous ne disons pas que les problèmes manquent. Les problèmes sont là, sont nombreux et ils viennent comme des torrents. Vous en réglez un deuxième arrive. Vous réglez le deuxième, le troisième arrive. Mais cela ne devrait pas nous faire peur. Parce que à un moment donné, il se lève et il parle au vent et il parle à la tempête et il se calme. Alors, le prophète se pose la question. Que se passe-t-il? Pourquoi donc? De Jérémie 8, n'est-ce pas? Ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Ce Dieu qui a guéri des maladies. Il dit dans les psaumes, il nous guérit de toutes nos maladies. Il dit dans Exode 15, il est Jéhovah Rapha qui nous guérit de toutes nos maladies. Alors, dans Ésaïe 53, il en parle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, lui ne comprend pas. Dieu a donné toutes ses promesses. Dieu a fait toutes ses promesses. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne comprend pas comment est-ce que ça ne marche pas avec la fille de son peuple. De Galaad, c'est à nous. Comme a dit Akab à Josaphat, Ramoth en Galaad, c'est à nous. Je dois aller reconquérir cela. Il y a plein. Pourquoi tu veux aller prendre Ramoth en Galaad? Mais parce il y a des bois, c'est une région boisée avec plein de résine, plein de baumes, de plantes médicinales. Vous savez que Dieu guérit aussi par les plantes. Hein? Ésaïe 38. C'est un pays de figuiers, c'est un pays d'oliviers. Amen. Ésaïe 38. Verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » C'est ainsi dit le Seigneur. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai toujours cru en ta parole. J'ai toujours cru en tes promesses. Oh, et souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Dieu est un Dieu de miséricorde. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. » Et il va venir, le prophète va venir, au verset 21, il va dire, je vais lire tout le reste, hein. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues. Il y a plein de figuiers là-bas en Galade. Alors, pourquoi est-ce que je laisserais Ramoth en Galade? Pourquoi est-ce que je laisserais ça à l'ennemi? C'est à moi. Dieu me l'a donné. Et vous appelez vos frères. Frères, priez avec moi pour que j'aille chercher Ramoth en Galade. Mais la première chose à faire, évidemment, c'est de demander l'avis du Seigneur. Parce que c'est... Comment dirais-je? Ces décisions sont toujours parfaites. Dieu a toujours raison. Parfois, ça peut nous écorcher. Mais David dit, tous ceux qui ont le cœur droit approuveront. Et alors, qu'on apporte des figues, une masse de figues. Qu'est-ce que les figues ont à voir là-dedans? Je n'ai pas faim. Non, non. Les figues ont une vertu médicinale. Dieu ne les a pas créés pour rien et qu'on les étende sur l'ulcère. Ézéchias vivra. Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Oui. Tout cela, c'est pour vous, c'est pour nous. Et c'était pour Israël, toutes ces choses. Jérémie était un prophète que Dieu avait appelé en Israël. Et c'est vrai, il y avait des promesses de jugement, parce qu'Israël avait commis des péchés, mais il y avait aussi des promesses de rédemption, hein, de les relever. Dans Jérémie chapitre 15, verset 15. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Oh, cette parole. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ça devrait s'arrêter. Amen. Nous croyons dans Ésaïe 53. Il a porté nos souffrances, n'est-ce pas? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi donc ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Dieu n'a-t-il pas donné, n'a-t-il pas fait de promesses pour que ma plaie soit guérie? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Dieu me tromperait-il? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. On peut se questionner. On peut se poser cette même question. Mais pourquoi? Pourquoi donc la plaie de mon peuple ne guérit-elle pas? Ne lui ai-je pas annoncé la parole de guérison? Ne lui ai-je pas annoncé la promesse de Dieu? Nous avons cette bonne nouvelle qui nous est apportée dans les Écritures, poussée par le Saint-Esprit. Nous avons cette bonne nouvelle d'abord dans Marc 16. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il faut croire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas. J'ai pensé à cet homme au bord de la piscine de Bethesda. 38 ans. Pendant 38 ans, comme certains disent parfois, cette maladie était plus âgée que Jésus-Christ lui-même. Quand il était venu sur la terre. Donc, il était même malade avant que le Seigneur ne naisse. Et 38 ans, il était là, à la piscine de Bethesda. Il savait que dès qu'il voyait l'eau bouger, qu'il fallait être le premier. Il a souvent essayé. Il n'a jamais été le premier jusque-là. Il dit au Seigneur, mais le Seigneur lui dit, mais l'eau, elle est là. Est-ce que tu ne veux pas être guéri? Il dit, mais j'ai un problème. Je n'ai personne. De moi-même, je ne sais pas. Je n'arrive pas à y plonger. Je crois que c'est Jean 5. Regarde-moi un peu ça. Il dit, j'ai un problème. C'est ça. On tient encore Marc 16, n'est-ce pas? Après cela, il y eut une fête des Juifs. Ça doit être la fête de la Pâque. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. 5, c'est le chiffre de la grâce. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci. Quand vous courez, ne courez pas, n'est-ce pas, à la manière de... Comment il s'appelle encore? C'est des Jeux olympiques. Là. Comment il s'appelle encore? Non. Celui qui est organisateur des Jeux olympiques. Ah, oubliez son nom. De Coubertin. Ne venez pas avec la sagesse de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Non. Paul dit, quand vous courez, courez de manière à remporter la course. Il ne vous demande pas d'être le premier. Mais il vous dit, mais quand vous courez, courez de manière à remporter, à être le premier. De manière, pas pour être le premier, mais
Courez comme si vous vouliez être le premier. Voilà. Ne courez pas nonchalamment, je participe. Les chrétiens qui s'emparent des promesses, ce sont des violents. Ils n'y vont pas par le dos de la cuillère. Amen. Alors, il était là, cet homme à la piscine de Bethesda. Il dit, il était au milieu des boiteux, des paralytiques. Il y en avait qui étaient plus avantagés que lui. Vous savez, il y a un athlète, j'entendais ça ce matin à la radio, il y a un athlète qui court avec les Jeux paralympiques et son degré d'infirmité est douteux. Il gagne tout le temps. Et les autres, ça porte le doute chez les autres. Donc il y a de ces malades-là qui ne sont pas vraiment malades. Mais vous l'êtes réellement. Lui, il était paralytique, il ne pouvait pas bouger, il fallait qu'on le jette. Mais il y avait d'autres qui étaient semi-paralytiques. Ou peut-être ils avaient juste un bras, mais ils avaient les deux jambes bien en place. Hein. Ce qui fait, lorsqu'il fallait plonger, ils étaient les premiers à plonger. Amen. Ça, c'est décourageant. Vous allez partir de là, vous allez vous dire, je n'y arriverai jamais. Et même ceux qui vous ont amené là-bas la première fois, eux se sont découragés. Le temps qu'ils viennent vous prendre, il y en a déjà un qui a un dans l'eau. Et lui, il obtenait la guérison. Et vous, vous devriez attendre une année comme cela, 2 ans, 3 ans, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, il fallait vraiment se jeter dans l'eau de manière à être le premier. Vous voyez ? Et est-ce que ça l'a découragé ? Est-ce qu'il est rentré chez lui ? Non, monsieur. Ceux qui l'ont amené là, eh bien, ils sont peut-être partis. Mais lui, ils lui ont dit, ben, écoute, on te ramène. Il a dit, non, non, je reste ici. Moi, cette guérison, je la veux. Nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons jamais. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Cet homme attendait. Je ne sais pas s'il savait que c'était le temps où Jésus-Christ devait venir, mais il attendait, il avait cette foi, il attendait. Il savait qu'il n'avait aucune chance devant les autres, mais il avait eu cette révélation en lui qu'il serait guéri. Là, la théorie comme quoi il fallait être le premier et plonger dans l'eau, ça ne tenait plus. D'ailleurs, il n'avait même pas besoin de plonger dans l'eau. Parce que ce n'était pas l'eau qui guérissait. Parce qu'une fois que le premier obtenait la guérison, lorsqu'un deuxième arrivait, il ne guérissait pas. Donc, ce n'était pas l'eau qui guérissait. Vous voyez ? Mais maintenant, celui qui guérit est venu personnellement chez lui. Grâce à sa persévérance. Et Jésus-Christ lui-même nous dit, quand vous demandez cela, si vous êtes un de ces élus, vous devez avoir ça en vous. Vous ne lâchez pas. Vous demandez. S'il faut demander nuit et jour, demandez nuit et jour. Ne vous relâchez jamais. Ces promesses, elles sont véritables. Il était sûr de cela. Il était certain de cela. Et nous, nous sommes certains de cela. Parce que Jésus a dit, donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous y croyons, n'est-ce pas ? ils saisiront des serpents. Ils boivent, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ne cherchez pas à voir si vous avez un don de guérison ou pas. Si quelqu'un vient vous demander de prier pour lui, s'il est venu à vous, c'est qu'il a vu en vous quelque chose, n'est-ce pas, qui fait que quand vous priez pour les malades guérissent. Maintenant, ce n'est pas sa foi à lui qui va vous guérir, c'est votre foi à vous. C'est votre foi à vous qui sera récompensée. Alors, n'ayez pas peur, si on vous défie, on vient avec un cas impossible devant vous. S'il faut imposer les mains, vous imposez les mains. Ce n'est pas vous qui allez défendre Dieu. C'est Dieu qui va se défendre lui-même. Il n'a pas besoin de notre défense. Mais nous prenons position pour lui. Moi, on m'a dit, si on me dit que le cas est désespéré, c'est fini. Mais s'il me dit « impose les mains », j'imposerai quand même. Et si Dieu le reprend, demain, j'imposerai encore les mains à d'autres. Gloire à Dieu. Nous n'abandonnons pas. Et cette bonne nouvelle est apportée par des gens que Dieu a établis pour pouvoir nous apporter cette bonne nouvelle. Ceux-là que lui a établis, ils viennent en son nom. Donc, ce sont ceux dont on lit dans Éphésiens 4, n'est-ce pas ? C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Amen. Il a fait des dons aux hommes. Nous avons des frères parmi nous qui prient pour les malades. Nous avons des sœurs qui prient pour des malades. Nous sommes une assemblée qui prions pour les malades. Ce sont des promesses qui nous sont données. Alors, la question qui peut épouvanter les gens, c'est pourquoi donc la guérison ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi donc la plaie de la fille de mon peuple ne guérit-elle pas? N'y a-t-il pas de baume en Galate? Il y a du baume en Galate. Nous ne nous relâchons pas. Nous demanderons toujours. Nous n'avons pas à nous poser la question pourquoi. Frère Abraham dit, on va le lire, il dit, parfois, c'est dû à notre propre entêtement. Mais, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a proclamé le jubilé. Vous savez, quand quelqu'un vient, il est addict, je ne sais pas, à quelque chose, à l'alcool ou à la drogue ou quelque chose de ce genre. Quand vous lui demandez, mais lâche ça, je parlais à une de mes filles, je dis souvent c'est une de mes filles, je lui disais, mais non, t'as pas besoin de... Mais quand on te répond, on te dit, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Tu es plus fort que ça. C'est Satan qui te fait croire que c'est plus fort que toi. Tu es plus fort que ça. Dis-lui seulement que tu n'en veux pas. La chose est que quand tu déposes ton machin en question, ce qu'importe ce que c'est, quand tu déposes, il faut croire que Jésus-Christ a libéré. Il faut croire cela. Et non pas déposer cela de manière en se disant, oula, j'espère que je vais y arriver. Non, à ce moment-là, il y a un doute. Quand vous déposez cela, hein, c'est le cantique qui dit, il faut vaincre le monde et puis partir. Ne restez pas là, à tournoyer autour. Jésus proclame le jubilé dans Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Nous y croyons. Dans ce livre, dans cette parole, dans la parole de Dieu, il y a des solutions. Il y a les solutions pour régler tous nos problèmes, tous nos différends. Il y a de quoi nous apaiser. À nous tous, nous n'avons pas à être inquiets. Tout ce dont nous avons besoin se trouve là-dedans. Qu'il n'y ait pas de tumulte ou des angoisses ou des inquiétudes. Christ a tout réglé et tout ce qui contribue à la piété, Dieu nous l'a donné. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de raison que cette plaie ne guérisse pas. La plaie doit guérir. On doit partir de ce principe-là. La plaie doit guérir. Elle doit guérir. Si vous trouvez le lendemain que la plaie est toujours là, remerciez Dieu de vous avoir guéri. Dans la prédication, pourquoi ? Je ne sais plus en quelle année il a prêché ça. En 63, 26 juin. Il dit ceci. Il est 20h. Il dit ceci. Paragraphe 95. Le véritable mode de vie de Dieu n'a jamais été populaire, c'est vrai. Quand Dieu dit « faites ceci », ça semble être bizarre. Comme quand Jésus-Christ rencontre l'aveugle né, il crache par terre et il lui met la boue sur les yeux. Il faut accepter ça. Pardon. Ouais. Et encore, quand il lui a appliqué la boue, il ne voyait toujours pas. Il lui a dit, va à tel endroit, va te laver à la piscine, là-bas, de Siloé, et tout ira bien. Alors, c'est un peu comme Naaman. Naaman, il était lépreux. On lui dit, plonge 7 fois dans le Jourdain. Il se fâche. Il dit, mais il y a la Bana et le Parpar qui sont des meilleurs fleuves que le Jourdain. J'aurais pu me laver là-bas. Mais on ne t'a pas dit que le Jourdain te guérirait. On t'a dit de plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Moi, je croyais qu'il allait me considérer, moi, général ou moi, officier du roi, qu'il allait me considérer, qu'il allait juste faire avec sa main, sans que je ne me salisse. Parfois, il faut aller dans la boue. Parfois, il faut se mettre à genoux sur du fumier. Qu'importe où vous trouvez, vous n'avez pas à choisir l'endroit pour que ça soit un endroit propre. Lorsque l'Esprit descend, là où vous êtes, demandez à Dieu. Je peux vous prendre pour un fou. En vous promenez dans les bois, vous voyez la grandeur de Dieu. Vous commencez à dire, oh Dieu, combien tu es grand. Les gens vont vous regarder bizarrement. N'ayez pas honte. Si le Saint-Esprit vous demande de louer Dieu, louez-le. C'est une vie de victoire. Il ne sera jamais populaire. Car la prédication de l'Évangile, c'est de la folie pour ceux qui périssent. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Eh bien, nous voyons ici que le roi était obstiné, c'est le roi, le fils d'Akab, celui qui était tombé dans le treillis, au travers du treillis et qui était malade, et qui avait envoyé, s'il n'y avait pas, le Dieu des cons ne pouvait pas le guérir. C'est comme aujourd'hui, un patient qui se couchera juste sur un... Qu'arriverait-il si un patient allait chez un médecin, se couchait sur les marches, alors qu'il a attrapé une espèce de fièvre qui allait le tuer et que le médecin venait à la porte et disait « Monsieur, j'ai des médicaments ici à l'intérieur. » Il dit « Ah, je n'en veux pas. Entrez, je vous donnerai une piqûre, une inoculation. Je ne veux pas de vos médicaments. » Et dites donc « Monsieur, je peux bien vous aider si seulement vous entrez. » Eh bien, le monsieur ne veut pas entrer. Nous avons le remède. Le remède, il est là. Eh, mais j'ai déjà essayé, frère François. J'ai déjà prié pour. Priez encore. Ne vous fatiguez pas. Cet homme, là, si vous vous fatiguez, cet homme-là à la piscine de Bethesda, le jour du jugement, il sera contre vous en tant que témoin. Il témoignera contre vous. Et cet homme reste étendu là sur les marches de chez le médecin et il meurt. Il meurt sur les marches de chez le médecin parce qu'il n'a pas voulu d'une inoculation contre la fièvre typhoïde ou quoi que ce soit qu'il avait. Il n'a pas accepté une inoculation contre cela. Cet homme meurt là même sur les marches de chez le médecin. Eh bien, cet homme, on ne peut pas blâmer le médecin. Vous ne pouvez pas blâmer la parole. Vous ne pouvez pas blâmer Dieu. Dieu a tout donné. On ne peut pas condamner le médicament. Cette promesse, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, elle est véritable. On ne peut pas la blâmer. Il est mort sur l'homme est mort sur les marches de chez le médecin d'une maladie contre laquelle il y avait des médicaments. Il y a un remède. De quelle maladie est-ce que Dieu nous guérit? De toute maladie. Sans exception, qui pouvait être soigné à l'intérieur, eh bien, ce n'est qu'une parabole qu'il a donnée. Mais vous savez, Dieu a le médicament dans son royaume qui guérira chaque maladie du péché qu'il y a au monde. Et les gens restent assis juste sur les marches de l'église. Entrez! On y entre comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Non seulement cela, mais ils restent assis juste dans le banc et meurent. Ils sont perdus et vont en enfer. Parce qu'ils refusent d'accepter les médicaments du médecin. Les gens ont peur d'avoir le Saint-Esprit parce qu'il fait tituber. Il a fait tituber le jour de la Pentecôte. Il vous fait marcher comme un ivrogne. Si vous entrez dans votre voiture et qu'un policier vous voit sous l'impact du Saint-Esprit, il va venir et va vous faire passer un alcootest. Amen. Et il va constater que vous êtes tout à fait sobre. Mais vous semblez... Et il ne sera pas convaincu, il va peut-être même faire une analyse de sang pour voir si vous n'avez pas de la drogue. Non, monsieur, nous avons ici une bonne drogue venant du Dieu vivant pour nous guérir, pour nous soulager de nos maladies, pour nous soulager de nos souffrances. Nous avons les meurtrissures de Jésus-Christ pour nous guérir de nos maladies. Oh, nous avons la consolation de Jésus-Christ pour nous consoler de notre affliction. Nous avons toutes ces choses, tout ce dont nous avons besoin se trouve en sa main. Alors que le Saint-Esprit ne se pose pas la question ce soir, pourquoi? Pourquoi n'utilisez-vous pas? Je n'arrête pas de me plaindre, je dis, je n'ai pas le cœur à l'ouvrage. Oui, mais tant que tu vas continuer à te plaindre, tu n'as pas le cœur à l'ouvrage. Tu n'auras pas le cœur à l'ouvrage. À un moment donné, il faut passer ça. Amen. Il faut passer ça et montrer au diable que vous êtes heureux comme cela. Que votre sort, il est heureux. Prions le Seigneur. Il ne faut pas que le Saint-Esprit dise... Pourquoi? Mais pourquoi? Tu es toujours triste. Pourquoi es-tu tout le temps tourmenté? Pourquoi es-tu affligé? N'y a-t-il pas de baume en Galade? C'est sûr qu'il y en a. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la grâce infinie que tu nous as faite en nous rassemblant. Ce soir, nous nous sommes rassemblés autour de ta parole et nous avons vu que ta parole, elle est véritable. Nous avons vu que tes promesses, elles sont véritables. Nous ne voulons pas abandonner. Il y a cet homme à la piscine de Bethesda qui a résisté 38 ans. Il y a cette femme pendant 13 ans que Satan a courbée, cette fille d'Abraham. Il y a eu d'autres cas. Il y a cette femme à la perte de sang qui avait dépensé tout son argent, oh Dieu, auprès des médecins. Mais elle ne s'est pas découragée. Il y a Bartimée qui a crié de plus en plus fort alors qu'on pensait qu'on voulait le faire taire, mais il ne s'en est pas occupé. Oh, que tu nous envoies encore des Bartimées aujourd'hui, que tu nous envoies encore de ces hommes à la piscine de Bethesda, des persévérants comme ceux-là, car eux, ils peuvent dire que ma plaie a été guérie. Et avec eux, le Saint-Esprit n'a pas à se poser de questions, mais pourquoi? Pourquoi la plaie de mon peuple, de la fille de mon peuple, ne guérit-elle pas? Pourquoi cela ne cicatrise pas? N'y a-t-il pas de baume en Galade? Il y en a, Père, et Galade est à nous. Accorde-nous cette grâce. Tu nous as donné cette victoire contre Og et Sion, oh Dieu. Og, le roi de Bazan, nous te remercions, oh Dieu, pour ces victoires. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous le savons, mais nous combattons contre des autorités, contre des royaumes, des principautés et toutes ces choses. Aussi, nous voulons nous revêtir de toutes ces armes que tu nous as données, ayant la pleine conviction qu'en quand bien même le corps est usé, nous avons cette conviction que ce que tu as promis, tu es plus que capable de l'accomplir. Donne la joie du salut à ceux qui l'ont perdu. Donne le zèle à ceux qui n'en ont plus. Pas que les cailloux ne les blessent pas pendant qu'ils marchent, car ce sont de véritables chaussures aux pieds. Nous te remercions pour ce soir. Te remercions pour cette occasion que nous avons eue. Te demandons de bénir chacun d'entre nous. Tous ceux qui écouteront, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Adressons notre prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.